après à peu près 2 mois, on ne va pas dire de repos pour celui qui l'orateur, mais 2 mois de partage. Vous vous rappelez, depuis qu'on a décidé, à peu près, je dis 2 mois, oui, juillet, août, que nous avons consacré nos rencontres dimanche matin, nos cultes dimanche matin, au partage. Et Dieu a parlé. Qu'est-ce qu'il a parlé? On a gagné même au change. Il n'y avait pas de message, mais il y avait des messages centrés sur les messages de Christ à travers les frères et sœurs depuis le mois de juillet. Bien entendu, nous continuons. Chaque culte, au début, il y a toujours ce partage. Et le premier dimanche du mois, c'est toujours un culte réservé, consacré au partage, échange entre le repas du Seigneur, qui n'est rien d'autre que sa parole, et la parole, c'est Christ lui-même. Alors nous reprenons nos habitudes, et voilà, je suis amené, je dirais, à vous soumettre, ou partager avec vous ce que j'ai sur le cœur, et en priant le Seigneur, qu'il éclaire chacun de nous, et qu'il enlève tout ce qui vient de l'âme, mais qu'il laisse que ce qui vient de lui. Et s'il y a des choses erronées à côté, ben que le Seigneur sanctifie, qu'il mette de côté tout ce qui n'est pas conforme à son plan, mais qu'il parle à chacun de nous, à moi le premier. Prions. Seigneur notre Dieu, voilà, nous sommes devant ta parole. Nous reconnaissons qu'elle nous dépasse, mais nous reconnaissons aussi qu'elle nous nourrit. Le peu de choses que nous apprenons, pour nous, c'est un trésor. Et bien, je remets entre tes mains ce que nous allons partager ce matin à travers ce message. Je te prie de le sanctifier, à commencer par sanctifier l'orateur, de nous apprendre par nos erreurs et d'enlever tout ce qui vient de l'homme afin que tu puisses garder que ce qui vient de toi. Parlez en chacun de nous, selon la mesure de chacun de nous. Parle-nous, parce que tu parles tous les jours, mais c'est nous qui mettons ce voile qui nous coupe de toi. Seigneur, que ce mur se brise, afin que nous puissions laisser accès à ta parole à notre être intérieur, et que nous puissions y vivre selon ta volonté. Amen. Alors, s'il faut donner tout de suite un titre, ce matin, au message de ce matin, c'est « Tu es le Christ, Fils de Dieu ». Ce titre est venu d'abord par rapport à ce que nous avons partagé dimanche dernier et à la lecture de Tobie dans 1 Samuel, chapitre 3, où il a lu le verset, il a lu tout un passage, et ce qui a retenu mon attention, c'est le passage, le verset 1 Samuel, chapitre 3, versets 6 et 7. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit « Je ne t'ai point appelé. Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel lui avait pas encore été révélée. La phrase clé qui m'a touché, c'est « La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. » Et c'est pour cette raison qu'il n'entendait pas Dieu. Oui. Dans l'une des prières de l'apôtre Paul adressée aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 18, je lis, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Voilà l'apôtre Paul qui écrit à l'église d'Éphèse et leur dit « Je prie tout le temps pour vous, pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. » Deux choses, sagesse et révélation. L'apôtre Paul demande à Dieu d'accorder un esprit de sagesse et de révélation. Deux choses différentes et très complémentaires. Afin d'avancer dans la connaissance de Dieu. La sagesse, ça peut être le savoir, la capacité de lire et d'interpréter. Ça peut être la théologie, ça peut être la loi, tout ce que vous voulez, c'est bien. Mais le savoir tout seul est une lettre morte. S'il n'y a pas la révélation, Dieu parle à notre cœur, dans notre être intérieur. S'il n'y a pas ça, ce que nous savons par la sagesse, c'est quelque chose de mort. L'apôtre Paul évoque deux réalités qui permettent d'accéder à la connaissance divine. La sagesse et la révélation. La sagesse n'a de sens que si elle est éclairée par la révélation. Les vérités humaines, nous l'apprenons aujourd'hui, c'est pas seulement aujourd'hui, de toute l'histoire de l'humanité, les vérités humaines ne sont pas celles de Dieu. Ce qui nous paraît souvent bon et logique n'est pas spécialement bon et logique pour notre Créateur. Et on peut voir dans la Bible en sortir plein d'exemples. Mais plein d'exemples. Mais qu'est-ce que c'est que cette logique que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils ? La logique humaine, on peut même condamner, mais ce n'est pas un Dieu d'amour. C'est notre logique. Mais Dieu, à travers ça, il est en train de dire, est-ce que vous êtes capable de donner de ce qui est le plus cher en vous, pour moi ? Ça, c'est la logique divine. Dans le Nouveau Testament, à un certain moment, nous lisons, je crois dans les Actes des Apôtres, où il est écrit, l'Esprit empêcha l'apôtre Paul d'aller évangéliser en Asie Mineure. Mais qu'est-ce que c'est que cet Esprit qui empêche à quelqu'un d'aller évangéliser ? Oui. Parce que ce n'était pas le moment. Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu dans un monde où il y a plein de souffrances en Afrique ? Il y en a qui meurent, il y en a qui meurent de faim. La logique humaine. Mais ce n'est pas celle de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on nous apprendra quand on sera au ciel. Et là, on dira, ah, la logique divine nous dépasse. Ce n'est pas la nôtre. Un peu d'humilité, mes frères et sœurs, pour ne pas être tellement convaincus. Tout à l'heure, nous avons lu avec l'aveugle que le Seigneur a guéri. Les Juifs étaient tellement convaincus de la parole de Dieu que ça ne peut pas venir de quelqu'un. C'est pas possible. Oui. Ils ont même dit, traitez Jésus de pécheur. Il aurait répondu, je ne sais pas si tu es un pécheur ou pas, mais tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, moi je vois. Maintenant je vois, oui, la logique de Dieu. Comment peut-on vaincre la mort par la mort ? Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui est incapable de protéger son propre fils ? Il le laisse comme ça mourir sur une croix. Et aujourd'hui, on accuse même les Juifs d'être les responsables de la mort de Jésus. Oui, même dans l'histoire des guerres, de religion, tout ça, on évoque ça, hein. Mais par cet acte, Dieu a racheté le monde et nous avons l'espérance d'hériter le royaume des cieux. Nous pouvons nous poser tellement de questions sur notre propre vie. Tellement de pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi. Des pourquoi se succèdent et nous sommes confrontés aux limites de notre logique qui se fracasse devant la logique divine qui nous dépasse, que nous ne comprenons même pas. D'ailleurs, pouvons-nous faire autrement ? Pas du tout. C'est notre faiblesse. Et c'est dans cette faiblesse que le Seigneur est venu nous chercher. La Bible nous avertit et nous le dit dès le premier verset de la Bible. Dieu a pris le risque de créer un monde avec des humains où il y aura la contradiction. Dès le premier verset de la Bible, dès le commencement, le mot Bereshit est annoncé. Et dans ce mot, il y a déjà cette confusion, cette logique de ce monde. Et ça, c'est les Hébreux qui nous donnent la réponse. Ces érudits hébraïques qui nous disent que la première expression, Bereshit, commence par la lettre B. La lettre bête. Et il n'y a aucun hasard avec la parole de Dieu. Un mot a un sens. Une virgule a un sens. Une absence de mot a un sens. Et bien ce mot qui a commencé Bereshit en hébreu, ça a commencé par B. Pourquoi la Bible commence par la lettre B alors qu'elle aurait pu commencer par la lettre A, ça veut dire numéro 1, c'est-à-dire Dieu, l'unique. La Bible commence par la lettre B qui est une valeur 2, parce que c'est un chiffre aussi en hébreu, 2. La Bible commence par une dualité. C'est comme s'il nous dit, le monde commence par deux choses, toujours deux, qui connotent une certaine dualité accompagnée avec une contradiction, le jour et la nuit. L'homme et la femme. Et dans la contradiction, on trouve la complémentarité. C'est un premier signe de la limite de notre logique incapable de raisonner comme Dieu. Il en est incapable, de toute façon. En Dieu, il n'y a pas de dualité. En Dieu, il n'y a qu'une seule pensée, une vérité. Il n'y a qu'un seul et unique vérité. Et c'est Dieu lui-même. Il est un. D'ailleurs, si vous jetez un coup d'œil sur la forme de la lettre B en hébreu, là c'est la forme, vous verrez d'abord la lettre B veut dire maison. C'est comme si Dieu nous disait, le monde, je vais le créer dans une dualité, dans une maison. La maison, c'est nous-mêmes et le monde. Et cette lettre, elle a la forme, on va dire, d'un C ou d'un carré qui lui manque un côté. Et cette lettre, ce C-là, ou ce carré rectangle, il manque un segment, il est ouvert de la droite vers la gauche. N'oublions pas que l'hébreu s'écrit de droite vers la gauche. Comme pour nous dire, vous ne pouvez qu'expliquer ce qui est devant vous. Mais si vous voulez expliquer ce qui est derrière, c'est-à-dire Dieu, c'est fermé. Vous ne pouvez pas expliquer Dieu. Trois segments et le quatrième est absent. Comme si Dieu veut nous dire que nous ne pouvons pas expliquer l'unique, le Dieu créateur. Où nous ne pouvons pas expliquer sa logique, mais nous pouvons expliquer le monde par notre propre logique, qui est duelle, contradictoire. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas expliquer ce qui précède la lettre B, c'est-à-dire la lettre A, en hébreu, c'est l'Aleph. Et Aleph, c'est Dieu. Cette Aleph, cette lettre A, que le livre de la Genèse ne prononce même pas, parce qu'elle commence par la lettre B. Et il faut attendre le Nouveau Testament pour qu'on nous parle de ce Dieu qui précède la lettre B. Et c'est le premier verset de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Avant la lettre B, il y avait Dieu. Et la parole était en Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, existait avant la lettre B, existait avant le commencement du monde, existait avant la fondation. Voilà le Seigneur Jésus-Christ en qui nous croyons, il existait déjà. La parole est Christ. Qui était et qui sera. Avant qu'Abraham fût, Jésus est. L'évangile de Jean, chapitre 8, versets 57 et 58, je lis. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Dans un autre passage, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 6 et 7, Jésus lui dit aussi, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Seigneur Jésus, ce n'est pas seulement cet être historique qu'on a vu il y a plus de 2000 ans. Il est toute chose. En qui toute chose est faite? Le monde existe parce qu'il était juste avant. En son Père, certes, mais il était là. Donc la connaissance de Dieu passe par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Une connaissance qui ne se réduit pas à notre sagesse, à notre savoir, à notre science, à notre théologie, à notre loi, à notre je ne sais quoi. Non. Elle dépend, comme il l'a dit l'apôtre Paul, d'une révélation. Et cette révélation est accessible à tout le monde. Il n'y a aucune condition d'âge, de diplôme, de sexe, de couleur, quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'étudier pour recevoir la révélation. Et c'est ça qui fait que les enfants de Dieu sont tous égaux devant Dieu. Et souvent, quand on met le savoir, on s'éloigne. Alors que celui qui n'a pas le savoir, souvent, il est plus proche. Et je me suis toujours posé la question. Pourquoi quand on annonce le Seigneur Jésus-Christ, il est plus facilement accepté dans les pays, dans les continents comme l'Afrique noire qu'en Occident? En Occident, il faut qu'on pèse le pour, le contre, etc. Logique, thèse, antithèse, etc. Et sans savoir devient Dieu en Afrique. Vu ce que je vis, je sais que je existe. C'est ça, j'accepte. Seigneur, viens. C'est cette connaissance que nous ne pouvons pas fabriquer, qui devient notre vérité, qui accompagne tous nos raisonnements, car elle dépasse les apparences des choses. Et ces apparences de vérité pour nous faire entrer directement dans le cœur de Dieu. C'est la mission que s'est donnée l'apôtre Paul quand il parle du mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà la véritable connaissance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est simple, la vie chrétienne. Ne la compliquons pas. Connaître notre Seigneur est indispensable pour se libérer de notre propre raisonnement aliéné. Quand je dis connaissance, je ne parle pas d'accumulation de savoir. Connaissance, c'est une réception du Seigneur dans notre être intérieur, dans notre cœur. Cette question de connaissance du Seigneur est tellement importante qu'elle fait l'objet d'un échange célèbre que nous connaissons tous entre le Seigneur et ses disciples. Dans Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » La façon comment est perçu le Seigneur par les gens comme prophète, comme étant Élie, Jérémie, un syndicaliste peut-être, je ne sais pas, est logique. Pour ceux qui ne croient pas en lui. Il se base sur l'histoire. Ils ne peuvent pas le connaître autrement. Mais est-ce pour autant qu'ils sont dans la vérité? Et l'absence d'une révélation intérieure, on ne peut pas concevoir le Seigneur autrement que comme ces gens de son histoire, de son époque historique. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il est question de révélation dans l'être intérieur. Avons-nous reçu le Seigneur dans notre intérieur? Ou est-ce que nous l'avons reçu intellectuellement? Ou par sympathie pour notre entourage? Si c'est le cas, si on l'a reçu juste par sympathie ou intellectuellement, il est temps de prier le Seigneur qu'il se révèle dans l'être intérieur. Le Seigneur est perçu de deux manières différentes. Humainement et spirituellement. Humainement, en tant que prophète, grand homme de Dieu, faisant des miracles, tout ce qu'on veut, et spirituellement comme Christ et Fils de Dieu. Christ et Fils de Dieu. Ce sont deux réalités spirituelles, Christ et Fils de Dieu, que Dieu nous transmet directement dans notre cœur, dans notre être intérieur, dans l'habitation de son esprit, c'est-à-dire notre être intérieur, c'est là où habite l'Esprit de Dieu. Et pas dans notre système intellectuel, par un savoir théologique qui disparaîtra avec notre corps le moment venu. Bien que c'est une grâce, ça peut arriver aussi à notre tête, mais ce n'est pas indispensable. Le début de l'évangile de Marc, que nous étudions maintenant le mardi soir, nous avons dit, il commence par une phrase qui est le titre de tout l'évangile. C'est comme si l'évangéliste, Jean, nous disait, vous savez de quoi je vais vous parler? Ben de ça, la première phrase. Et maintenant, je vais vous détailler. Quelle est cette première phrase dans l'évangile de Marc? Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Tout l'évangile de Marc nous explique ce que c'est le Christ, Fils de Dieu. Tu es le Christ. Voilà ce qu'il a dit Pierre. Christ signifie Messie. Christ signifie Messie. Ce mot d'origine grecque, Christos, est un calque exact du mot Messia. Messie. Il veut dire loin de Dieu. Loin, O-I-N-T. Pas loin de Dieu, pas éloigné. Je prononce mal, mon accent du sud. Loin de Dieu. L'O-I-N-T. De Dieu. Et dans l'Ancien Testament, les prophètes et les prêtres étaient oints, c'est-à-dire mis à part pour servir Dieu. Ils étaient oints de l'Esprit de Dieu et ils avaient une communion avec le Créateur. Donc, il y a cette notion de séparation et de mise à part laquelle nous sommes appelés en tant que chrétiens. Quand Pierre confesse la Christologie de Jésus, il confesse sa communion avec la pensée divine. Pierre a reçu par révélation le plan de Dieu. Le fait de dire Christ, c'est le plan de Dieu qui est annoncé. Un plan de séparation avec nous-mêmes et avec le monde pour nous concilier avec lui en son Fils Jésus, par qui il va mettre en mouvement tous ceux qui seront appelés à la réconciliation. Je vous invite à lire chez vous Ésaïe chapitre 53 verset 5. Par ses meurtrissures nous sommes guéris. On peut le traduire aussi. Par ses meurtrissures nous sommes remis en mouvement. Le mot messien intègre aussi la notion d'effacement. En arabe, le verbe masaha, parce que vous savez, la langue arabe est cousine de l'hébreu, vient du verbe masaha qui veut dire effacer. En Christ, notre péché originel est destiné à s'effacer pour laisser la place à une nouveauté de vie animée par l'Esprit et dans l'Esprit. Donc cette nouvelle vie, l'œuvre de la croix du Seigneur, devient l'animateur, celui qui remet en mouvement, l'animateur de notre métamorphose et donc de notre nouvelle vie qui nous prépare pour l'éternité qui nous attend. C'est cette cible que nous, chrétiens, nous ne devons pas rater. Rater la cible. Rata, mot hébreu. C'est le mot en hébreu, en araméen et en arabe aussi qui veut dire péché. Rater la cible, c'est la définition du péché. Rata concernait les archers. Quand leurs flèches passaient à côté de la cible, littéralement cela signifiait « tu as raté la cible ». C'est ça la définition du péché. Ce n'est pas les fautes qu'on commet. Non, c'est l'objectif en fait de commettre les fautes, nous égarant de la cible. C'est ça le péché. Malheureusement, quand la Bible a commencé à être retranscrite en grec et en d'autres langues, personne n'a repris la formule exacte, préférant la traduire par « erreur ». Défiance ou déficience et par la suite par faute. Et c'est dans ce sens qu'on entend aujourd'hui le péché. Quand le Seigneur dit à la prostituée « Va et ne pêche plus », il lui disait en fait « Va et ne rate plus la cible ». Ça n'a rien à voir. C'est la cible qui doit nous dynamiser et nous pousser à ne pas pécher et nous disposer à changer dans la repentance. Et quand nous sortons de la trajectoire et nous éloignons de la cible, la croix est là et sera toujours là pour nous remettre sur le bon chemin grâce au sacrifice du Seigneur, grâce à son sang versé et à sa résurrection. Car en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens chapitre 1, verset 7. La cible pour nous, c'est Christ, en qui nous aspirons à l'éternité. La cible, c'est rejoindre Christ pour l'éternité. C'est ça la cible. Ne ratons pas la cible. Et quand nous péchons et nous ne repentons pas, nous éloignons de la cible. Donc nous avançons pour rien. Notre vocation, c'est faire partie de l'Église, épouse du Seigneur. Une Église purifiée, sanctifiée, qui n'attend qu'une chose, aller à la rencontre du Seigneur quand il reviendra. C'est tout cela, connaître le Seigneur en tant que Christ, le mot Christ. Alors ne nous trompons pas d'objectifs et de cibles, même si ça nous coûte, et ça nous coûtera réellement beaucoup. Ça nous coûte notre mort à nous-mêmes et notre dépouillement continuel, un dépouillement de tous les jours. Pierre a reçu par révélation et confessé le plan de Dieu pour l'humanité, si ce n'est pour la création tout entière. Cette humanité est remise en mouvement par la métamorphose en Christ, et c'est la croix qui a rendu cela possible. Par la suite, il dit, tu es le Fils de Dieu. En même temps, tu es le Fils de Dieu. Proclamer Jésus en tant que Fils de Dieu, c'est reconnaître la particularité divine de ce Fils qui dépasse toutes les explications philosophiques et théologiques. Car dire Fils de Dieu, c'est reconnaître une essence divine sur la base d'une séparation douloureuse, comme nous pouvons le lire dans Jean 1, 14. Mais avant de le lire, nous comprenons pourquoi maintenant. Les témoins de Jéhovah rejettent la divinité de Jésus. Donc une partie de la confession de Pierre est mise à la poubelle. Ils ne reconnaissent pas le Seigneur comme fils de Dieu. Les religions du monde, y compris ma religion d'enfance, même si elle reconnaît un petit part de vérité sur la christologie de Jésus, rejette la divinité de Jésus. Voyez, la vie chrétienne est basée sur deux déclarations révélées. Le Christ, fils de Dieu. La parole s'est faite chair. Et cette parole a subi une séparation avec son auteur, qui est le Dieu créateur. L'avènement du Fils a débuté par une séparation douloureuse, car la parole s'est faite chair. La première séparation, c'est déjà le Seigneur l'a vécu. En quittant son Père pour devenir chair parmi nous, c'est une première séparation douloureuse qu'il a faite. Il nous donne l'exemple. Nous subirons la même chose. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De cette séparation sur la vie. Par sa nouvelle naissance et sa conversion, l'homme est appelé à revêtir l'état de fils de Dieu. Nous sommes des filles et des fils de Dieu en Christ. Vivons dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ, car il est le seul qui connaît le Père et qui est susceptible de nous le faire connaître, comme nous pouvons le lire dans deux passages de la Bible. Le premier, dans Romains chapitre 8, verset 14. « En effet, tous ceux qu'animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Si nous avons l'Esprit, nous sommes des filles et des fils de Dieu. Mais nous n'avons, si nous n'avons pas l'Esprit, nous ne le sommes pas. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Le mot encore « révéler ». Luc, chapitre 10, verset 22. Cette communion entre le Père et le Fils nous est accessible à nous, chrétiens, et même indispensable pour que nous puissions nous épanouir dans une vie chrétienne normale, rien d'extraordinaire, une vie chrétienne normale. Et c'est à la croix du Seigneur, c'est à la croix du Seigneur que Dieu est venu à la rencontre de l'homme en son Fils Jésus-Christ. Jésus dit, leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous, en vous-même. Il ne nous demande pas de concrètement manger sa chair et son. Non, c'est rentrer dans cette communion et laisser le Seigneur nous accomplir ce qu'il a fait à la croix dans notre vie de tous les jours. Ce Fils de Dieu, Dieu parmi nous, en passant par le sacrifice de la croix de Golgotha, a payé le prix à notre place. Certes, mais il fait quelque chose de plus grand encore. Et il a fait quelque chose de plus grand encore. Il a dit lui-même, j'ai tout accompli. Tout est accompli. Jean chapitre 13, verset 30. À la croix, avant de rendre l'âme, avant de rejoindre son Père, il a dit, tout est accompli. Il a vaincu le monde. Je ne cesse de le répéter. Il a vaincu le monde dans lequel nous vivons. En sorte que nous sommes dans le monde, nous ne sommes plus du monde. L'homme est affranchi du monde. Dans Galates 6, 14, l'apôtre Paul écrit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Nous vivons dans un monde, nous n'avons pas la pensée du monde. Par la croix, le Seigneur a vaincu aussi la chair et ses convoitises. C'est notre faiblesse. Ça habite en nous, cette chair, ses convoitises qui donne accès au péché. Si c'est cette chair et ses convoitises qui engendrent des péchés, en sorte que nous soyons par la foi libérés de la tyrannie de notre nature et de ses capacités sensorielles, aliénés. Notre nature, si elle n'est pas crucifiée, si nous ne réalisons pas qu'elle est crucifiée, c'est le terreau du péché. Par la croix, le Seigneur a vaincu la mort, et surtout la mort physique, qui n'est plus une fin en soi, mais un dernier tremplin avant la vie éternelle. La mort ne peut plus être vue comme une fatalité, mais comme un dernier rempart pour accéder à une véritable liberté éternelle. Comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 25 et 26, « Car Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Il faut que ça arrive pour avoir cette liberté finale, sauf si le Seigneur revient avant. Et là, nous serons transformés. Par la croix, le Seigneur a vaincu l'ennemi de nos âmes, le diable, en le chassant des lieux célestes. Désormais, il n'œuvre que par le mensonge. Il n'œuvre pas que le mensonge et la division dans notre monde pour nous faire oublier sa défaite déjà accomplie. Colossiens, chapitre 2, verset 15, je lis, « Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Les puissances célestes, l'ennemi de nos âmes est vaincu. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 14, « Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. » C'est accompli. Toutes ces choses sont déjà accomplies en Christ. C'est pour ça, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Il peut arriver quoi que ce soit aujourd'hui, nous pouvons avancer. Sérénité. En Christ. Mais tant qu'on est en communion avec lui, nous pouvons avancer malgré les turbulences. Mais dès que nous nous éloignons de lui, et nous cherchons nos propres logiques, nos propres convictions, tellement convaincus, gare à nous si nous raisonnons loin de la communion avec le Seigneur. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Cette grande confession de Pierre rejoint la prière de l'apôtre Paul adressée à Éphésiens que je vous ai lu tout à l'heure. Je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. La confession de Pierre, je termine, la confession de Pierre est le fondement même de toute vie chrétienne, individuelle et collective au sein de l'Église qui est le corps du Seigneur. Suite à cette confession de Pierre, la réponse du Seigneur en Matthieu 16, 17 à 19 est la suivante. Et ça sera notre conclusion. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Le fondement de l'Église, du Seigneur, ne s'appuie pas sur Pierre, comme on nous fait croire aujourd'hui, y compris l'Église catholique. Non. Le fondement de l'Église du Seigneur se fonde sur la confession de Pierre. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Toute vie chrétienne est et doit se baser sur cette confession reçue par révélation. C'est le mot clé de ce matin. Par révélation. La confession de Pierre constitue la base de toute vie d'Église. Une vie qui n'a de sens que si elle est basée sur le Seigneur en tant que Christ et Fils de Dieu. L'Église ne doit pas en dévier. Nous devons nous souder fraternellement, mes frères et sœurs. Nous devons nous souder fraternellement dans cette réalité. Car la récompense est la vie éternelle. Peut-être c'est dur aujourd'hui. Mais quand on se retrouvera dans le ciel, on va se réjouir ensemble. Et ça ne sera rien, toutes ces difficultés de la vie sur terre. L'objectif vaut la chandelle. Ne le ratons pas. Une Église qui n'a pas la vision de Pierre est une Église aveugle. Même si elle donne l'apparence d'une église bien organisée, beaucoup d'activités, beaucoup d'argent. La solidité de l'église ne réside pas dans les bons projets, les bonnes règles, les bons chrétiens, les bonnes intentions, mais dans la vie à travers une communion véritable avec le Seigneur, qui est à la fois Christ et Fils de Dieu. Sans la révélation du Seigneur en tant que Christ et Fils de Dieu, l'église n'est rien aux yeux du Créateur. Que Dieu nous aide à ouvrir les yeux, et moi le premier, sur cette réalité divine et spirituelle, et qu'il nous fasse grâce en nous révélant le Seigneur Jésus-Christ, en nous révélant Jésus en tant que Christ et Fils de Dieu. Amen.